Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Urbaflore, émission dédiée aux plantes sauvages, menacées et protégées, dont l'un des objectifs est d'en parler pour mieux les connaître, connaître leur univers, leurs particularités, le monde dans lequel elles vivent et que l'on partage quotidiennement avec elles. Je vous propose d'écouter et de répondre à plusieurs questions d'enfants qui s'interrogent sur la flore et la biodiversité, mais pas que. Du CE2 au CM2, je voulais vivement remercier ces curieux de la vie ainsi que leurs maîtresses, Audrey et Ingrid, de s'être prêtées à cet exercice dans une période et un temps d'apprentissage où la biodiversité et sa préservation sont un sujet riche et central aujourd'hui et pour demain.
C'est Jérôme Garcia qui anime chaque mois cette émission Urbaflore, l'émission du Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. Salut Jérôme.
Bonjour Lisa, bonjour à tous.
On parle plantes et eau aujourd'hui?
Effectivement.
Première question.
Je me demande comment les fleurs absorbent l'eau puisqu'elles n'ont pas le même système que les humains?
Effectivement, tu as bien noté cette différence entre les plantes et les humains. Merci pour ta question pertinente. Comme il est facile de s'en rendre compte, un des points évidents qui distingue les plantes des animaux est la faculté qu'ont les plantes à rester à la même place, alors que les animaux ont carrément la bougeotte. Donc nous, si on a soif, on se déplace vers un point d'eau pour boire, on prend un verre, on le remplit d'eau, on ouvre la bouche et on avale l'eau. Et ça ne nous prend que quelques secondes. Pour les plantes, c'est plus subtil. Si elle a soif, elle ne va pas aller se servir un verre d'eau comme tu t'en doutes, mais elle va utiliser ses racines. Elles lui permettent de s'hydrater. La plante va guider ses racines et les faire pousser vers une zone du sol qui est la plus riche en eau. Mais ça lui prend plusieurs heures. Sur ses racines, comme j'ai pu en parler dans une précédente émission, il y a comme de nombreuses minuscules bouches qui vont aspirer l'eau du sol comme des éponges. On les appelle des poils absorbants. Ils sont situés à l'extrémité des toutes jeunes racines de plantes. Chez les êtres humains, l'eau, elle va descendre dans notre gorge avant d'atterrir dans l'estomac, puis elle va être distribuée dans tout notre corps grâce aux vaisseaux sanguins. Chez les plantes, l'eau, elle va monter du sol vers les feuilles en utilisant des vaisseaux conducteurs de sève. Ce mouvement d'eau ascendant, qui va de bas en haut, est possible grâce à l'évaporation de l'eau qui se fait à la surface des feuilles. C'est une eau liquide qui se transforme en gaz et qui rejoint l'atmosphère. Comme j'en ai déjà parlé, ce phénomène d'évaporation se produit quand tu fais, par exemple, sécher du linge humide sur un étendoir. C'est donc ce mouvement ascendant qui permet d'hydrater toute la plante. C'est ce qui explique qu'une plante coupée et placée dans un vase ne fane pas immédiatement. Parfois, elle est même capable de fabriquer de nouvelles racines. Et là, merveille de la nature, tu as fait une bouture.
Pour poursuivre cette capacité des plantes à absorber l'eau, nous avons une nouvelle question.
Je me pose une question. Pourquoi les arbres ne fanent pas quand il fait chaud?
Merci pour ton intervention. Excellent sens de l'observation. Tu as effectivement constaté que les plantes ne réagissent pas tout à fait pareil à la chaleur et au manque d'eau. Tu as parlé d'arbres qui ne fanent pas. J'imagine que tu as pu observer quand il fait chaud que les plantes des pelouses, des prairies, des champs ou des bords de route perdaient leur couleur bien verte printanière pour prendre une couleur jaune, plutôt marron, typique en été. C'est que ces plantes n'ont pas les mêmes comportements face à la chaleur. Elles ont notamment des systèmes racinaires différents. Certaines petites plantes ne vivent qu'une année et sèchent quand vient l'été, mais leurs graines germeront à l'automne ou au printemps pour reverdir le sol. D'autres vont aussi avoir leur feuillage tout sec en été sans forcément mourir. Elles ont généralement des bulbes ou des tubercules ou un autre organe souterrain avec des réserves qui leur permettent de passer ces périodes de forte chaleur avant d'être réactivées par les pluies d'automne ou de printemps. C'est le cas par exemple du crocus, du colchique, de la tulipe, des orchidées terrestres ou même de la pomme de terre. D'autres plantes sont encore capables de limiter leur consommation d'eau. Dans les feuilles, il y a des sortes de gardiens qui limitent ou empêchent la sortie d'eau. C'est des toutes petites cellules qui sont à la surface des feuilles et on les appelle des stomates et pas des tomates. Stoma en grec, ça veut dire ouverture ou bouche et ça fait référence à la forme justement de ces gardiens, de ces cellules qu'on trouve à la surface des feuilles. Enfin, les arbres et les arbustes, eux, sont dotés d'un système racinaire qui est bien développé et qui leur permet d'aller chercher de l'eau ou de l'humidité en profondeur ou sous un paillage. Certains arbres produisent aussi une protection sur la feuille. C'est comme une espèce de carapace qui est faite de cire ou de duvet et qui permet de mieux conserver l'eau. C'est le cas par exemple du chêne vert, du chêne kermès, du chêne pubescent ou même de l'olivier. C'est ce qui fait qu'ils ne fanent pas. Par contre, si tu décides de planter un arbre ou une autre vivace au printemps ou en été, il faudra l'arroser souvent pour que la terre autour des racines ne se dessèche pas. Car il lui faut du temps pour développer de nouvelles racines qui lui permettront d'être autonome pour boire seul les années suivantes. Le mieux reste de les planter à l'automne, juste avant l'hiver, pour éviter la chaleur et le manque d'eau.
Et nous avons une autre question qui porte justement sur certaines capacités des plantes à survivre lors des sécheresses.
Bonjour, j'ai 10 ans et je voudrais vous poser une question. Comment les cactus arrivent-ils à avoir de l'eau ?
Merci pour cette interrogation qui doit effectivement en intriguer plus d'un. Les cactus sont des plantes exceptionnellement bien adaptées aux conditions extrêmes de leur milieu de vie. Par conditions extrêmes, j'entends avec des sécheresses intenses et un manque d'eau prolongé sur plusieurs mois. Les cactus, ils se rencontrent souvent dans des déserts, dans des milieux semi-arides tropicaux et subtropicaux, avec beaucoup de soleil, des températures très chaudes en journée et l'absence de gel. Dans ces habitats, les cactus développent des racines qui sont capables de capter la moindre goutte d'eau, la moindre source d'humidité. Ces racines vont aller sous des rochers ou vont pousser à faible profondeur, mais sur un large périmètre autour du pied. J'ai par exemple le cas du cactus géant Saguaro, qui vient d'un désert du Sonora, qui est à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, qui a des racines qui sont capables de s'étendre sur un rayon de 30 mètres. C'est l'équivalent d'un terrain de basket ou de 3 bus alignés. Les cactus ont la capacité de collecter rapidement l'eau qui tombe pendant la courte saison des pluies pour l'emmagasiner, la stocker, la mettre en réserve dans ses tissus. Le cactus va alors gonfler. C'est tout l'intérêt aussi d'avoir une peau épaisse, une absence de feuilles et surtout des épines qui vont empêcher les herbivores de le manger. Avant la saison des pluies, le cactus va résister à la chaleur et à la sécheresse en étant dans une sorte d'état d'hibernation. En fait, son activité est très ralentie, c'est un peu comme s'il dormait. Allez, je vous propose de ralentir mais pas de s'endormir avec une petite pause musicale. On écoute « Pas si vite » de Jojoa et Lieutenant Nicholson.
Pas si vite,
tout va trop vite,
bien trop vite,
tout va si vite,
pas si vite,
tout va trop vite,
ralentissons, pas si vite, allez, allez, allez,
allez, ça va aller,
allô, tempo, piano, va piano, va sano. Excellent quand c'est lent.
retour dans l'émission Urbaflore, l'émission du Conservatoire Botanique National des Pyrénées, de Midi-Pyrénées, où aujourd'hui on parle plantes et eau dans cette émission. Ce sont les enfants du CE2 au CM2 qui posent les questions et c'est toujours Jérôme Garcia qui répond, chargé de conservation au CBN. Et après avoir parlé de cactus, on change totalement d'environnement pour plonger dans les océans avec cette question.
Bonjour, j'ai 9 ans et j'aimerais savoir pourquoi quand on donne trop d'eau à une plante, elle meurt alors que celles qui sont dans l'océan ne meurent pas.
Je te remercie pour cette question très intéressante. C'est bien vu, effectivement. Les plantes et l'eau, ça peut faire deux ou ne faire qu'un. Tout comme les cactus peinent à pousser dans nos intérieurs mal éclairés ou si on les arrose trop, les plantes qui poussent dans les océans meurent si elles ne sont pas dans de l'eau, et de l'eau salée en plus. Si ta plante est adaptée à consommer peu d'eau, comme les cactus ou les orchidées tropicales, lui apporter trop d'eau, trop souvent, va asphyxier ses racines, les faire pourrir et faire mourir la plante. Sauf à vouloir faire des expériences, planter un cactus dans une mare ou un nénuphar dans un potager est voué à la mort certaine de ces plantes. En fait, chaque plante vit dans un habitat particulier dans lequel elle aura trouvé des astuces pour pousser. On dit qu'elle est adaptée aux conditions du milieu. Soit de soleil ou d'ombre, soit d'humidité ou de sécheresse, soit de sol argileux ou sablonneux, etc. Et, je te le rappelle, les plantes, contrairement aux animaux, ne peuvent pas se déplacer si l'endroit ne leur plaît plus. L'adaptation des êtres vivants à leur environnement, c'est un processus, un mécanisme, qui peut prendre énormément de temps, des centaines voire des milliers d'années. Chaque être vivant occupe ainsi un habitat qui lui est propre et qui évolue plus ou moins lentement. C'est ce qu'on appelle aussi sa niche écologique, c'est sa zone de confort, c'est la situation dans laquelle il trouve les meilleures conditions pour se développer et se reproduire. Parfois, cette niche, elle est petite, elle est plutôt étroite. C'est le cas d'espèces spécialistes comme le panda, qui ne mange que du bambou, ou le koala, qui ne consomme que des feuilles d'eucalyptus. J'ai changé, hein. J'ai parlé tout à l'heure des plantes, là je parle un peu des animaux, mais c'est pareil pour les plantes. Parfois, cette niche écologique, elle est grande. C'est le cas d'espèces généralistes comme le rat, le renard, le pigeon ou même les humains, qui se trouvent bien dans plein d'environnements différents. En bref, je pense que tu as compris que chaque espèce de plante a des aptitudes, des capacités, des particularités qui leur permettent de se développer dans certaines conditions, mais pas dans d'autres. Comme disait ma grand-mère, chaque chose a sa place et chaque place a sa chose.
On reste sous l'eau, mais pas noyé quand même, avec cette toute dernière question.
Comment les herbes marines font-elles pour vivre sous l'eau et pousser ?
Super question, merci. Elle vient compléter justement la précédente concernant l'adaptation des plantes à leur milieu. Mais avant de te répondre, je voulais simplement te dire que les herbes marines dont tu parles, on dit qu'elles sont immergées, du latin in, qui veut dire dans, et mergere, qui signifie plonger. Certaines herbes marines forment ce qu'on appelle des herbiers, comme les herbiers à Posidonie ou azo austère. Je ne suis pas un spécialiste de ces espèces car l'ex-région Midi-Pyrénées dans laquelle je travaille n'a pas la chance d'être en bord de mer. Pour en revenir à ta question, cela peut effectivement paraître déroutant que des plantes arrivent à pousser sous l'eau. On imagine qu'elles pourraient avoir des problèmes pour respirer, qu'elles pourraient se noyer ou pourrir. Mais il faut savoir, d'une part, que dans l'air comme dans l'eau, il y a du dioxygène et du dioxyde de carbone. Et d'autre part, que les plantes marines ne sont pas des animaux comme nous. Elles sont capables de respirer sous l'eau pour absorber justement ce dioxyde de carbone et rejeter ce dioxygène. Ensuite, pour pousser, ces plantes vont trouver leurs nutriments, leur nourriture, à base de minéraux, directement dans l'océan. Pas dans la terre comme les végétaux terrestres. Ces nutriments, ils vont être directement absorbés à travers les tiges et les feuilles. Et du coup, ces plantes ne développent pas de racines profondes, comme les espèces terrestres. Ces racines, elles leur servent surtout à s'accrocher au substrat pour résister aux courants marins et aux mouvements des vagues. D'ailleurs, leurs feuilles et leurs tiges sont assez flexibles pour ne pas casser. Pour la lumière, essentielle à leur croissance également, pas de souci. Elles traversent l'eau, même si la luminosité est un peu plus faible, et ces plantes sont bien adaptées pour bien la capter. Pour se reproduire, là encore, les fleurs et des fruits existent pour ces plantes marines et sont adaptées à l'environnement. La pollinisation ainsi que la dissémination se passent également sous l'eau. Des fragments de plantes marines peuvent aussi être emportés un peu plus loin par les courants et permettre l'apparition de nouveaux herbiers. Pour finir, La présence de sel dans l'eau de l'océan n'est pas un frein pour ces plantes, car là encore, elles peuvent tolérer, réguler, équilibrer ces concentrations entre l'eau salée et leurs tissus végétaux. Une histoire de pression osmotique. Mais ça, c'est une autre histoire. Ainsi s'achève cette émission Urbaflore sur le thème des plantes et l'eau. Et je vous propose de nous retrouver à la rentrée pour parler des propriétés des plantes avec de nouvelles questions, toutes plus pertinentes et riches les unes que les autres, auxquelles j'essaierai d'apporter des réponses. Merci encore à nos jeunes avides de savoir d'avoir partagé leurs interrogations sur le monde fascinant du végétal et de la biodiversité. Ouvrez l'œil, restez curieux et continuez à vous poser des questions et à les partager. Un bel été à tous, à l'ombre des arbres ou dans l'eau, à observer les herbiers marins.
Et un très bel été à toi, Jérôme.
Merci, Lisa.
Garcia, chargé de conservation au Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. On peut retrouver toutes ces émissions en Urbaflore, avec notamment plein d'émissions. Les dernières sont consacrées à des questions d'enfants sur la biodiversité qui nous viennent de l'école de Montaïs. Toutes ces émissions, on peut le trouver sur le site internet cfmradio.fr. On se voit en septembre. Salut, Jérôme.
Salut, Lisa.